François Dubé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Bordeaux 2 et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes un spécialiste reconnu, notamment des questions d'éducation, entre autres. Alors, on a souhaité vous recevoir aujourd'hui pour faire partager votre regard non seulement sur l'actualité qui est, on va dire, comme toujours chargée du monde éducatif et du système scolaire, et peut-être plus en profondeur, comme nous y invitent des travaux récents que vous avez publiés, et notamment un ouvrage qui s'appelle « Fait d'école », de revenir sur votre approche, votre expérience de sociologue au contact notamment du milieu éducatif, mais plus généralement votre regard sur la société, la façon dont vous réfléchissez sur votre parcours à travers différents travaux. Alors, ma première question, on pourrait dire, c'est plus une invitation à la réflexion, c'est de vous demander quelle est la particularité de l'approche que vous avez souhaité développer autour d'un terme qui revient très souvent dans vos travaux et qui est celui d'expérience. Et l'expérience sociologique, l'expérience du monde social et l'expérience scolaire. Comment vous définiriez en quelques mots simples la singularité de cette approche ?
Et pour dire les choses de manière extrêmement simple, quand je me suis intéressé à l'éducation, au problème de l'école, pour parler comme ça, j'étais en face de très grandes recherches, très prestigieuses, qui posaient au fond une question, une seule, tout à fait fondamentale, c'est comment se produisent et se reproduisent les inégalités. Donc la seule question que l'on posait à l'école, c'était véritablement de savoir ce qu'elle faisait à la structure sociale. Bon. Moi, j'avais en tête une autre question, parce que j'avais travaillé avant sur des histoires de gamins, de banlieues, etc. J'avais une autre question, c'était qu'est-ce que l'école fait aux élèves. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas éternellement étudier le système scolaire sans se demander ce qu'il fait aux individus, et essayer de partir de ce que j'appelle l'expérience, mais dans un sens extrêmement banal, c'est-à-dire comment les élèves se construisent et construisent leur expérience scolaire, devrait me permettre de comprendre ce qu'est l'école, comment elle fonctionne, etc. Alors, ça date d'une vingtaine d'années, ces travaux, et aujourd'hui beaucoup de gens font ça, et je m'en réjouis. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'était pas si évident, ça avait quelque chose d'un peu étrange, au fond, d'aller demander aux élèves pourquoi vous travaillez, pourquoi vous êtes motivés, comment se passent vos histoires d'amitié à l'école, vos histoires d'amour, pourquoi vous aimez les profs, pourquoi vous ne les aimez pas. Mais je me sentais dans la situation, au fond, des gens qui disaient « bon, on a assez parlé du capitalisme, on va aller voir ce qui se passe dans les usines ». Voilà, c'était un peu ça, mon projet.
Ce que vous dites, c'est assez étrange de demander quelle est l'expérience, comme si, au fond, dans les grands modèles dont vous parlez, les grandes théories très prestigieuses, l'expérience de l'élève était en quelque sorte déduite du modèle théorique qu'on faisait.
Oui, vous aviez à l'époque deux grands modèles, un modèle incarné par Bourdieu, avec beaucoup d'ailleurs de génie d'une certaine façon, disant voilà, l'école remplit des fonctions, d'ailleurs un de ses livres s'appelle La reproduction, les fonctions du système scolaire, l'école remplit des fonctions et je déduis de ces fonctions l'expérience des élèves et des profs. D'ailleurs avec des paradoxes tout à fait étonnants, en particulier le fait qu'ils sont aveugles à leur propre expérience puisqu'ils ignorent les fonctions ultimes. Et de l'autre côté, vous aviez des modèles qui sont plutôt dérivés des théories du choix rationnel, qui ne demandent pas non plus d'ailleurs aux gens quels sont leurs choix, qui déduit des grandes séries statistiques, la nature des choix qu'ils sont censés supposer faire. Donc, dans les deux cas, d'une certaine façon, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe aux élèves, à ce qui se passe chez les élèves, et en plus, on ne s'intéresse pas véritablement à ce qui se passe dans leur expérience scolaire qui n'est pas scolaire, et qui est souvent essentielle.
Et alors, qu'est-ce que vous avez retiré de ces travaux et quel a été l'apport en quelque sorte? Vous avez fait notamment des travaux sur les lycéens qui ont connu un très grand écho parce qu'en quelque sorte, ils faisaient un tableau d'une société de classe moyenne et des contradictions, de la complexité de la vie des individus qui évoluent et qui s'y préparent.
Mais ils ont montré, je crois, des choses tout à fait simples. D'abord, ils ont montré que on était dans un monde qui se désajustait fortement. Et que le grand problème des lycéens, leur problème majeur, au fond, c'était, pour reprendre leur langage, de se motiver. C'est-à-dire que, non, mais ça a l'air idiot. Et ça, c'est pas idiot du tout. D'ailleurs, il vient de sortir un film qui s'appelle Entre les murs, qui raconte exactement la même chose. Au fond, le grand problème, quand on sort des modèles canoniques de l'école, c'est qu'on a affaire, au fond, à des élèves qui doivent se demander tous les matins quelle bonne raison puis-je me donner de travailler, puisque je ne suis plus cloné culturellement pour aller à l'école, puisque les utilités scolaires sont vaguement incertaines, et puisque la culture scolaire est confrontée à un fleuve de culture médiatique qui la, comment dirais-je, qui la désenchante. Donc, c'est ça le problème essentiel des élèves. Alors, évidemment, à partir de là, un, plus vous êtes socialement en haut, plus vous avez des capacités de vous remobiliser, parce que c'est plus facile. Plus vous êtes en bas, plus l'épreuve est difficile. Deuxième conclusion, qui est passée beaucoup plus inaperçue, l'épreuve des enseignants est strictement symétrique à celle des élèves, mais les enseignants ont beaucoup de mal à reconnaître qu'ils ressemblent à leurs élèves, d'une certaine façon. Mais l'épreuve est symétrique, c'est comme un couple qui se dispute, d'une certaine manière, ils ont le sentiment d'être totalement différents, mais ils ne fonctionnent que par, je dirais, leurs ajustements de conflits. Et la troisième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces élèves ont le sentiment continu, constant, d'être au fond menacés, d'être méprisés, d'échouer, parce que, contrairement à ce que disent beaucoup, l'école reste un monde qui classe, qui juge, qui range et qui oblige, au fond, à réajuster à la baisse, au fond, pour la plupart des gens. Leur image d'eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes. Donc c'est à la fois, le monde scolaire est à la fois un monde très cool, entre guillemets, en termes d'organisation. C'est le monde que j'ai étudié n'est plus un lycée caserne, je veux dire, on s'embrasse discrètement dans un coin de la cour sans qu'il ne se passe rien. Sur ce plan-là, sur le plan du contrôle social, il est devenu très très détendu. Mais en revanche, il exerce une pression sur la réussite et l'estime de soi qui est beaucoup plus brutale qu'elle n'était. Donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si on a gagné au change, mais on a en tout cas quitté un registre de contrôle pour l'autre.
D'accord, donc la démocratisation scolaire, voilà, la massification de l'entrée dans des niveaux d'études supérieures, que ce soit lycée ou ensuite l'université, a pour vous pas conduit à ce qui est souvent dénoncé dans le discours politique, et on va y venir, politique et médiatique sur la question de l'éducation. La capacité de l'école à réguler les comportements, là vous le dites par la compétition notamment. Parce qu'on entend souvent que l'école a perdu tout contrôle, toute autorité, et ça je crois que c'est un discours contre lequel vous inscrivez en faux.
Enfin, je m'inscris en faux contre cette espèce de climat tout à fait ahurissant qu'il y a en France sur l'école, consistant à dire l'école élémentaire a connu un âge d'or en 1810, 1910, pardonnez-moi, le lycée en 1902, parce qu'après il y a eu une réforme, et revenons dans cette espèce d'âge d'or, qui est une sorte de stupidité sans nom. Pour des raisons, évidemment, le monde a changé, tout simplement, mais en même le public scolaire s'est tellement transformé que ça n'a pas de sens. Donc là-dessus, je suis tout à fait hostile, évidemment, à ce genre de nostalgie. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est que, en se massifiant, en s'ouvrant, en se démocratisant, on peut employer tous les mots qu'on veut, l'école a totalement changé de nature. Et au fond, notre difficulté politique en France, c'est d'accepter, d'une certaine façon, que nous avons changé la nature de l'école, parce que nous avons longtemps eu le rêve, consistant à dire je vais mettre toute une classe d'âge au collège, 80% d'une classe d'âge au lycée, mais ça restera le lycée Henri IV de 1950. Bon, évidemment, tout ça est totalement loufoque, d'une certaine façon, et les enseignants ont été totalement désarmés, désespérés, les élèves, comme ça, violents, là, souvent. Et là, on est devant, je dirais, un problème politique assez troublant, qui est liée, je crois, au fait que la France républicaine a été construite sur un modèle scolaire très particulier, et que nous avons le sentiment récurrent dans ce pays que ce modèle est le cœur de notre identité nationale et qu'il est par conséquent un petit peu sacrilège d'y toucher. Moi, je raconte en m'amusant un peu que, au fond, le monde scolaire est un monde théologique, est un monde où on discute de religion laïque, de principes, etc., avec une difficulté extrême d'affronter nos problèmes, ce qui fait évidemment que la réalité scolaire nous déçoit tragiquement parce qu'elle est tellement en dessous de nos ambitions.
Oui, et d'où cette, vous avez plaidé notamment pour que le collège, ce qu'on appelle le collège unique, soit, j'allais dire, refondé, on pourrait dire, autour d'un socle commun de connaissances, c'est-à-dire d'avoir une approche, j'allais dire, démocratique serait peut-être un mot un petit peu fort, mais d'avoir une approche, j'allais dire, au moins plus égalitaire de l'éducation que ce modèle qui
oui,
élitiste, en fait.
Enfin, si on prend l'histoire du collège, il faut en deux mots dire quelle était la nature du collège, du problème du collège. Quand René Haby, en 1975, installe le collège unique, mais qui était déjà, comme toujours, démographiquement déjà là. Bon. Mais quand il installe, Haby dit deux choses, et qui sont tout à fait intéressantes. Il dit, un, le collège sera le collège unique de tous, sera le prolongement jusqu'à 16 ans de l'école élémentaire. Donc c'est l'école du peuple, c'est l'école dans laquelle tous les enfants vont de manière homogène jusqu'à 16 ans. Première affirmation. Deuxième affirmation, dit Haby, il va de soi que le collège donnera aux élèves ce que nous avons de meilleur, et ce que nous avons de meilleur, c'est la culture des grands lycées, qui était réservée jusque-là à 15% d'une classe d'âge. Et donc, on a créé un truc tout à fait étrange, qui est une école absolument de masse, confronté à un modèle pédagogique, à une culture parfaitement élitiste. Donc pendant 20 ans, le collège a été un endroit, Antoine Pro disait le maillon faible, enfin un endroit absolument intenable. D'ailleurs, il reste un endroit très difficile aujourd'hui. Et quand je me suis occupé de ces problèmes-là à la fin des années 90, il y avait quand même une question qui maintenant est réglée, mais qui était très lourde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. À droite, sans doute, mais beaucoup à gauche, et une sensibilité, à mon avis, à cette époque-là, majoritaire chez les enseignants, disait on arrête la folie du collège, on remet un examen d'entrée en sixième, et on retrouve le bon temps d'avant. Évidemment, la faiblesse de cette solution, c'est qu'on ne dit jamais ce qu'on va faire des gamins qu'on ne prend pas. Bon. Donc, à partir de là, il fallait choisir son camp, j'ai choisi le mien. Et c'est le mien qui a gagné, donc je suis pour une fois heureux. C'est pas moi qui ai mené la bataille, mais j'étais du côté de l'équipe qui a gagné.
Mais vous y avez participé. Et on reviendra un peu plus tard sur cette réflexion que vous avez sur le sociologue engagé dans certains débats sociaux et engagé au contact de la société. Mais avant, il y a juste un point pour poursuivre la réflexion sur ce que nous dit l'école, en fait, l'école comme un symptôme de l'évolution des sociétés, puisque c'est un petit peu ça que vous décrivez. Vous avez parlé d'une approche théologique du problème de l'école en France, parce que c'est au fond la question de l'identité, j'allais dire républicaine, pour ne pas dire nationale, qui est en jeu, et qui s'est construite autour d'une institution. Et on voit dans vos travaux, et ça sera intéressant peut-être d'y revenir un moment, que cette question de l'institution et de la façon dont elle se transforme est un des impensés de la réflexion aujourd'hui. Et vous apportez là-dessus des éléments sur lesquels on peut discuter. Est-ce que c'est de l'extérieur, de l'intérieur, que l'institution se transforme et bouleversée par l'entrée dans une nouvelle société?
Si vous voulez, je me suis posé cette question en partant d'un problème très pragmatique. J'étais recruté par un ministre, pour m'occuper du collège. Pour faire une énième réforme du collège, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, donc des choses parfaitement banales dans ce monde-là. Et j'ai donc discuté avec tout un tas de gens, et je me suis rendu compte qu'on vivait dans un imaginaire, on vivait dans un monde quasi-religieux quand on parlait de l'école. Bon. Alors, ça m'a beaucoup troublé, et je me suis dit, il faudrait peut-être prendre au sérieux la création de cette école républicaine en France, et alors en m'intéressant un peu aux choses, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire l'hypothèse suivante, c'est que l'école républicaine française a été faite fondamentalement pour établir le monopole de la République sur les esprits contre l'Église. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle a adopté la même forme de transmission des connaissances que l'Église. Et l'école s'est constituée comme une contre-Église. C'est très, très, très net quand vous regardez l'école dans la première moitié du XXe siècle. Les instituteurs fonctionnent comme des prêtres, les professeurs comme des évêques, l'école est un sanctuaire, on y déteste tout ce qui est la trivialité du monde social, les sexes ne sont pas mélangés, l'enseignement professionnel est tenu dans une insanité profonde, il y a même un philosophe comme Alain qui a joué un rôle énorme, qui théorise ça. Enfin, Alain fait des choses assez amusantes. Il théorise l'opposition de l'enfant et de l'élève, exactement sur le même registre que l'Église théorisait l'opposition de l'âme et du corps. Bon, l'Église s'intéresse à l'âme, le corps, bon, il faut bien qu'il soit là, mais si au fond le corps pouvait ne pas venir dans l'Église, ça serait mieux. Et l'école fait des choses identiques, dit ce qu'on veut, c'est des élèves. Et au fond, l'enfance et les adolescents sont des choses que nous disons. Si quand vous allez dans le monde anglo-saxon, par exemple, qui n'est pas intrinsèquement supérieur, mais vous avez des modèles tout autres. Donc, l'école a été pensée comme ça. Et quand elle se massifie, elle ne peut plus gérer ça. Le sanctuaire explose. Je pense à des choses très triviales, mais qui sont malheureuses. Triviales, mais tout à fait fondamentales. Vous installez la mixité chez les adolescents. Ce qu'on a fait à partir des années 60, fin des années 60. Vous installez la vie juvénile dans l'école. Ce n'est pas la peine de croire qu'ils n'auront pas d'histoire d'amour et d'amitié qui auront pour eux une importance bien plus considérable que l'apprentissage des mathématiques. Donc, l'école française s'est embarquée dans une aventure. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce pays qui adore son école, et c'est une bonne chose, qui aime son éducation, depuis 30 ans, a été quasiment paralysé politiquement sur l'école, alors que, a priori, la mondialisation ne joue aucun rôle dans ces affaires-là, il y a eu quand même suffisamment de croissance pour y mettre des moyens, mais vous êtes dans un registre de sacralité républicaine qui rend les choses extrêmement difficiles.
Oui, mais alors, ce que ça nous donne à penser, c'est qu'au fond, il y a une transformation interne. L'institution, là, en l'occurrence scolaire, mais on pourrait parler d'autres formes d'institutions, se transforme, j'allais dire, de l'intérieur.
De l'intérieur.
Et c'est pas parce qu'on a souvent encore une fois, pour prendre à la fois du discours médiatique et politique, mais aussi des travaux plus scientifiques, la vision, non. Le sentiment que ça vient de l'extérieur.
Non, moi je suis résolument weberien là-dessus. Je veux dire, la rhétorique de l'institution, c'est toujours la rhétorique de la pureté de l'institution confrontée au caractère profane, ignoble et désordonné du monde. Donc si l'école ne marche pas, c'est parce que la société n'est pas digne de l'école. Si la justice ne marche pas, c'est parce que les gens ne sont pas gentils. Si la médecine ne marche pas, c'est parce que les médecins sont mauvais ou que le capitalisme... excusez-moi, que les malades sont mauvais, c'est un lapsus révélateur, ou que le capitalisme pourrit les choses. Bon, sans doute. Si le monde était parfait, l'école n'aurait pas de problème. Mais le vrai cœur du changement est interne à l'école. Et au fond, quand on regarde l'histoire de l'école, c'est tout à fait intéressante. C'est parce qu'elle accomplit sa vocation d'institution universelle qu'elle s'ouvre et se massifie et se détruit simultanément.
Contradiction dans les termes.
Il y a une contradiction dans les termes, mais là-dessus, il y a effectivement une sorte de bagarre politique sourde entre ceux qui disent « c'est plutôt ma position, on a la capacité d'agir, de réformer l'école, etc. » et ceux qui s'abritent en réalité derrière une sorte de fonctionnalisme assez consolateur, qui disent « que voulez-vous que j'y fasse avec la société telle qu'elle est ?» et qui d'une certaine manière, aujourd'hui, disent que le temple scolaire se défende et le mieux qu'il puisse faire. On a même d'ailleurs dans le monde intellectuel une évolution assez troublante de ceux qui dans les années 70 nous expliquaient que l'école était une chienne au service du capitalisme et qui aujourd'hui nous expliquent qu'elle est un temple de la vertu civique face à la mondialisation. Au fond, on peut changer d'église, ça, c'est pas grave.
C'est pas grave. Oui. Il y a quand même une conséquence sur laquelle il est intéressant de revenir, parce que vous la soulignez, et je crois que là aussi, on peut la voir se développer dans beaucoup de domaines de la vie sociale, c'est la responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, dans ce vieux modèle de l'institution qui est en relation avec, j'allais dire, ce que vous appelez des âmes, enfin des sujets qui s'imprègnent naturellement de ce qu'elle leur apprend. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur les acteurs eux-mêmes qui revient de gérer les tensions entre les différentes choses qui leur sont transmises.
C'est
plus exigeant, quelque part.
Ah, c'est considérablement plus exigeant. Les enseignants ont parfaitement raison de dire que leur travail est de plus en plus épuisant. Quand vous êtes dans l'institution, dans une institution, au fond, les relations aux autres sont pré-réglées par l'institution. Pour prendre une métaphore religieuse, vous êtes dans un ordre régulier, et dans cet ordre régulier, vous ne trouvez que des gens disposés à croire. Donc, ce n'est pas très difficile. Bon. Le malade est disposé à jouer son rôle par rapport au médecin, l'élève jouera son rôle à peu près par rapport au prof, etc. Quand vous sortez de ce modèle-là, vous renversez complètement l'ordre des facteurs et vous avez un transfert de ce que faisait l'institution sur les individus. Donc aujourd'hui, mais n'imaginons pas qu'on en sortira, moins nous avons d'univers institutionnel, plus nous sommes dans une société démocratique, plus nous sommes dans une société qui en appelle à la responsabilité, à l'épanouissement, à toutes ces valeurs auxquelles nous tenons plus tôt, plus il y a un transfert de charge sur l'individu et plus l'activité de l'individu est épuisante, puisque je dois faire ce que l'institution ne fait pas. Je reviens sur le film Entre les murs qui le montre très bien. Au fond, le problème du prof d'Entre les murs, ce n'est pas de transmettre des connaissances, c'est de construire les conditions qui font qu'éventuellement il transmettra des connaissances. On pourrait d'ailleurs faire les mêmes raisonnements sur la sociologie de la famille ou autre. Je veux dire, la paix des institutions était dénoncée parce qu'elle écrasait les gens, mais elle était paisible.
Il y a de nouvelles formes d'inégalité, parce que la responsabilisation, on l'a dit, c'est exigeant, mais cette exigence, elle est plus ou moins susceptible d'être... les individus sont plus ou moins susceptibles d'y répondre selon, encore une fois, parce qu'on a le sentiment que c'est quelque chose qui se
répond
de manière univoque, alors qu'en fait...
C'est d'ailleurs parce que ça mobilise tellement les individus comme individus que l'on voit dans les institutions se développer ces réflexes collectifs extrêmement défensifs et corporatistes, au fond, parce qu'ils vous protègent de cette exposition continue, mais à l'égard de laquelle nous sommes très ambigus, parce qu'au fond, il y a des menaces de prendre des coups, mais il y a aussi des gratifications très importantes, c'est d'être soi-même l'auteur de son activité. Donc nous sommes ambigus. Et dans le monde de l'école, les plaisirs s'énoncent moins que les souffrances. Il y a une sorte de légitimité de la plainte et d'obscénité de la réussite.
C'est, voilà. C'est peut-être pas que dans le monde de l'école d'ailleurs.
Voilà.
Il y a un autre aspect que vos travaux sur l'école, mais aussi sur le travail, ont permis de montrer, c'est... on va peut-être y revenir, c'est parce que la tension entre différents principes de justice. Parce qu'au fond, la compétition scolaire dont vous parlez, elle repose sur, on va dire, le principe du mérite. C'est le fait d'être auteur de ce qu'on de soi-même, de sa vie, c'est d'autres principes. Et il y a encore une vocation, on disait tout à l'heure, égalitaire. Donc il y a comme un ensemble de principes que vous avez décrits comme des principes de justice. Et on peut voir, en fait, qu'il y a une tension et une nécessité, cette responsabilisation, c'est peut-être la nécessité, simplement, pour chacun, de faire avec ces différents éléments. Alors, comment est-ce que vous voyez peut-être à la fois les tensions du monde scolaire à l'épreuve de ces principes de justice, et puis éventuellement l'activité sociale des individus, que ce soit dans l'école ou dans le travail.
Oui, enfin, on pourrait rajouter que c'est quand même le problème, la justice, c'est quand même assez fondamentalement un problème politique. Ce qu'on peut dire très, très rapidement, ce que je peux dire, c'est que d'une certaine manière, quand un citoyen français sur une place de village en 1900 voit écrit sur le mur, sur le fronton de l'école, liberté, égalité, fraternité, il pense que la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est la même chose déclinée de trois manières différentes. Il pense que c'est compatible. Il pense, si je faisais de la théologie, il pense que c'est le Dieu en trois personnes. Ce qui est très compliqué à imaginer, j'ai toujours eu de grandes difficultés, mais enfin, il pense que c'est pareil. Bon. Aujourd'hui, plus personne de raisonnable ne pense qu'on peut avoir la reconnaissance du mérite de chacun, l'affirmation de la liberté de tous et l'égalité garantie. Bon, on sait tous que ce sont des principes contradictoires. Alors on le sait, moi j'ai beaucoup étudié ça dans le monde du travail, ça crée des mondes de critiques extrêmement élaborés, sophistiqués, parce que d'une certaine façon, nous entrons dans des sociétés polythéistes de ce point de vue-là, c'est-à-dire nous voulons être égaux, mais nous voulons que notre mérite soit reconnu, c'est-à-dire que nous voulons au fond avoir un système d'équivalence entre ce que nous offrons et ce que nous recevons, et nous pensons que notre liberté, le droit d'être les auteurs de notre vie est inaliénable. Et les gens que j'ai interrogés, on en a interrogé beaucoup, ne cessent de vous dire, c'est parfaitement incompatible, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc nous sommes traversés par des tensions extrêmement fortes. Et cependant, aujourd'hui, la vraie légitimité est là. Je crois tout à fait à la formule sur la priorité du juste. Je veux dire, on parlait avec un peu d'emphase, mais quand les dieux nous abandonnent, quand on ne croit plus aux mêmes valeurs, ben, ce qui reste, c'est de nous accorder sur des principes de justice. Alors le cas de l'école est tout à fait intéressant, parce que l'école républicaine n'a pas été une école de l'égalité des chances. L'école républicaine a été une école de l'élitisme républicain, ce qui voulait dire une chose très très particulière. Je sépare les publics scolairement sur des critères sociaux, école du peuple, école de la bourgeoisie, et je permets aux meilleurs des enfants de la catégorie inférieure d'accéder à la catégorie supérieure. Mais ils ne sont pas en compétition, ces enfants. C'est simplement... D'ailleurs, l'élitisme républicain, c'est quelque chose d'assez amusant. Il est justifié au nom de l'intérêt de la nation. C'est-à-dire qu'on dit la nation ne doit pas se priver des talents des meilleurs de ses enfants. Mais c'est pas du tout, il n'est pas du tout question de permettre aux enfants d'ouvriers et de paysans d'entrer à l'école normale supérieure. Ce n'est pas du tout le problème. Alors, de temps en temps, l'un y parvient et évidemment il devient une sorte d'icône. Mais c'est un exploit sportif, enfin je veux dire, bon, c'est comme ça. À partir des années 60-70, on change de modèle et on dit non, on met tous les enfants ensemble, c'est une compétition continue et là c'est l'égalité des chances. Ce modèle est incontestablement plus juste. L'égalité des chances est un modèle plus juste que l'apartheid modéré de l'élitisme républicain. Le problème de ce modèle, c'est qu'il est d'une extrême violence, puisque vous mettant à égalité, il est d'abord violent politiquement parce qu'on ne peut pas y arriver. Donc il déçoit. Vous faites une promesse que vous ne tenez pas. Ensuite, sur les individus, il est extrêmement violent parce que vous êtes obligé, dans un modèle comme ça, de vous attribuer vous-même les causes de votre échec. Si je suis à égalité de compétition et que je perds le match, j'ai perdu le match. Alors dans le monde sportif, que moi j'aime beaucoup parce que c'est un monde qui est rempli de rites intéressants pour un sociologue, il y a plein de rites de consolation pour le vaincu, et le vaincu se dit toujours « je rejouerai dimanche prochain ». Bon, tandis qu'à l'école, on ne console pas les vaincus, et ils ne rejoueront pas dimanche prochain.
C'est une forme de cruauté très légitime, en fait.
Il y a dans l'égalité des chances quelque chose de darwinien. C'est très légitime. Et alors, bon, moi, je pense que comme la légitimité de l'école, elle repose sur des principes de justice, il faut quand même réfléchir très sérieusement à l'articulation des principes de justice qui permettent, au fond, de rendre l'égalité des chances supportable. Voilà. Ou juste pour les vaincus. Car le drame de l'égalité des chances, qu'il faut affirmer une fois pour toutes, c'est qu'elle suppose des vainqueurs et des vaincus. Et même si demain, les vaincus ont le niveau des classes préparatoires, ça n'a aucune importance, ils seront des vaincus.
Ils sont toujours vaincus.
Voilà.
Ouais. Avec ce paradoxe quand même, c'est qu'on a cette importance très très forte de l'école, y compris qui conditionne les destins sociaux des individus très très tôt.
Ouais.
Et en même temps, on voit... Bah, quand même, le rendement, ce qu'on pourrait appeler, vous avez réfléchi là-dessus, notamment avec Marie Durugula, sur le rendement décroissant des diplômes, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, même des diplômes très élevés ne protègent pas des individus du déclassement, et du sentiment d'avoir une mobilité sociale ascendante. Et c'est intéressant parce que peut-être que c'est cette situation sociale, ce contexte où les situations, les trajectoires de déclassement se multiplient, qui exacerbent ces tensions entre principes de justice. On va demander plus d'égalité, plus de reconnaissance de
Oui,
l'autonomie,
parce
parce
que
qu'il y a ce phénomène.
vous avez un problème qui est tout bête, c'est que la machine qui produit les qualifications scolaires et la machine qui produit les emplois sont deux machines qui ne fonctionnent ni au même rythme, ni avec les mêmes ambitions. Et donc, vous avez à ce moment-là, vous avez des périodes, par exemple, les années 60, où j'ai eu le bonheur de faire mes études, sont des périodes où vous avez croissance des diplômes et croissance de la rentabilité des diplômes. C'est quand même drôlement agréable, si je peux me permettre. Bon. Ensuite, vous avez des renversements aujourd'hui, croissance des diplômes. Je veux dire, quand on dit 70% d'une classe d'âge au bac, ça veut dire qu'une partie des bachelés sera ouvrier et employé non qualifié, puisque c'est le marché du travail qui est comme ça. Donc là, vous avez des phénomènes de. Terrifiant. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait déscolariser la société. Je pense qu'il faut probablement imaginer la formation d'une meilleure école en termes d'éducation, de culture, d'acquisition de compétences, de formation, d'expérience personnelle. Je crois que nous devons viser une meilleure école. Je crois que nous vivons dans une société qui a mis trop de charges sur l'école. L'école ne peut pas réduire les inégalités sensiblement. D'ailleurs, ce thème de l'égalité des chances est très ambigu, parce que on pourrait aussi raisonner en termes d'égalité des places. Et dire, peu importe que les individus aient des chances d'accéder partout, si leur situation s'améliore de manière à ce que ce ne soit pas si vital de changer de catégorie sociale. Ce qui était d'ailleurs le raisonnement du mouvement ouvrier, qui ne réclamait pas que les enfants d'ouvriers fassent autre chose, mais qui voulait que la situation ouvrière s'améliore. Donc je crois que sur l'école, il y a une sorte d'affolement aujourd'hui qui fait qu'on en attend beaucoup trop. Le thème d'ailleurs, qui maintenant est devenu une sorte de slogan de la société de la connaissance, etc., nous amènera exactement devant les mêmes difficultés. Je crois que c'est encore une fois un thème indiscutable. Mais il y a des sortes d'emballements sur les attentes scolaires qui sont tout à fait écrasants, alors qui ont des conséquences tout à fait tragiques.
Ça explique peut-être la rage dont vous avez parlé dans d'anciens travaux, ne serait-ce sur la galère des jeunes de banlieue,
Bah, écoutez,
la rage de la promesse non tenue.
les écoles brûlent. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même, il faut quand même voir que le résultat de tout cela est que 100 000 gamins sortent de l'école sans qualification, ce qui, après tout, n'est pas en soi absolument tragique. Ce qui est tragique, c'est qu'ils sont à peu près condamnés à ne rien trouver, puisque l'école donne des signes de conformité sociale. Donc eux les ont pas, ils sont d'emblée marginalisés. Ça c'est très tragique. La seconde chose, bien évidemment, c'est que beaucoup de quand il y a des histoires en banlieue ou des émeutes de banlieue, peu importe la manière dont on les appelle, dans les années 80, quand j'étudiais ça, les écoles n'étaient pas menacées. Aujourd'hui, elles brûlent. Or, on ne peut pas s'en tirer avec la théorie des délinquants qui viennent voler les ordinateurs de l'école. Ils mettent le feu à l'école. Parce que l'école est d'une certaine manière la machine qui les aspire et qui les rejette, qui les refoule. Donc, on aurait probablement intérêt à réfléchir très sérieusement, pas simplement sur le fonctionnement de l'école, mais sur la nature de l'emboîtement de notre système scolaire et de notre système social.
Ce sera peut-être la dernière question qu'on pourrait poser, mais bon, la gravité de ce constat et la nécessité, bah, en tant que sociologue, en tant que praticien de la réflexion, vous a conduit à vous engager, vous l'avez dit, dans certains débats sociaux, politiques, et avoir une grande expérience de la fréquentation, notamment du milieu éducatif. Et une particularité des derniers travaux que vous avez publiés, c'est de dire je, d'abord ce qui n'est pas si courant pour les sociologues, d'affirmer votre présence au monde, votre présence dans ces débats, et de revenir sur ces questions-là. Et alors, vous avez une réflexion qui est assez à fois curieuse, pleine d'une forme peut-être de déception, ou je ne sais pas, me dire votre sentiment exactement. Il y a un article que vous publiez dans Fait d'école, ce dernier ouvrage, s'intitule Pourquoi ne croit-on pas les sociologues? Comme s'il y avait une, il y avait, la société avait mobilisé tout un tas de raisons pour ne pas croire à ce qui est quand même des travaux scientifiques ou un engagement, non pas peut-être pas dans la publication, mais dans la diffusion et dans la présentation, le débat de certaines thèses qui sont validées par la mesure statistique, par le contrôle de l'expérience, etc. Alors, à votre avis, tout simplement.
Non, mais vous posez plusieurs questions. Là, y a une question, je dirais, cognitive. Vous écrivez un livre sur l'école, vous faites de gros efforts d'information, les gens vous disent, mais je vous crois pas. Bon. Alors, je crois qu'il y a un problème, un biais cognitif. C'est que on n'est pas obligé de croire quelqu'un qui ne voit pas le monde du même point de vue que vous. Je veux dire, je prends un exemple pour bien me faire comprendre. Pendant 20 ans, les sociologues ont dit le niveau monte. Pendant autant de temps, les enseignants ont dit le niveau baisse. Quand on y réfléchit, du point de vue de sociologue qui compare des séries statistiques, il monte. Du point de vue de l'enseignant qui voit passer des élèves recrutés à des niveaux plus bas que précédemment, le niveau baisse. Alors que le niveau des élèves monte, parce qu'avant, il n'allait pas dans sa classe. Mais pour le prof, il baisse. On pourrait montrer plein de choses. Par exemple, pourquoi les enseignants, c'est une chose absolument invraisemblable, croient au redoublement. Alors que toutes les enquêtes montrent que le redoublement ne marche pas. Ben, c'est parce qu'un enseignant ne peut nécessairement, comparer que le redoublement à lui-même. Et il constate que l'élève qui a redoublé, il est moins mauvais que l'année précédente. Alors que le sociologue compare l'élève qui a redoublé à celui qui n'a pas redoublé et qui était aussi faible et constate que celui qui a pas redoublé est plutôt meilleur. Mais ça, on ne peut pas le faire, empiriquement. Donc, il y a plein de jeux, je dirais, cognitifs, comme ça, qui sont assez drôle, après tout, nous savons tous que la Terre est ronde, mais notre expérience est quand même qu'elle est plate. Bon, faut pas raconter d'histoire. On croit plus véritablement qu'elle est plate, quand même, que ronde. Bon, ça c'est des biais. Il y a aussi des biais d'intérêt. Pourquoi on ne croit pas les sociologues? Les théories qui expliquent que l'école souffre parce que le monde est mauvais ont quand même de plus grandes chances d'être crédibles. Que les théories qui expliquent que l'école souffre parce que dans une certaine mesure, elle produit les malheurs dont elle souffre. Et maintenant, c'est devenu très très banal, ça. Mais les gens l'admettent. Mais moi, il y a 15 ans, quand vous disiez, par exemple, il y a des établissements qui ont les mêmes conditions sociales, etc., et certains marchent et d'autres pas, les gens refuser complètement cette espèce de mise en responsabilité. Aujourd'hui, nous travaillons tous avec. Il y a eu une révolution dans le monde éducatif, c'est la révolution PISA. Bon,
Cette enquête.
ces enquêtes ont joué un rôle formidable. Pour la première fois, nous avons comparé notre système scolaire à d'autres. On peut discuter de la comparaison. Mais jusque-là, on se comparait à nous-mêmes. Donc, chaque fois, c'est très difficile au fond. Je veux dire, les acteurs ont de bonnes raisons de ne pas croire. Et puis, j'ajoute, c'est vrai que c'est un peu ironique, mais au fond, je le crois. Il ne serait pas bon que les sociologues deviennent des ingénieurs sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, après tout, il est normal que les sociétés fabriquent de la politique, des illusions, des débats, du désordre. Et c'est vrai que le sociologue, souvent, a une sorte de réflexe d'ingénieur, en disant, bon, écoutez,
Par le savoir, on va justifier
voilà, écoutez,
l'action.
Moi, je peux vous dire que c'est comme ça que ça marche, vous m'embêtez avec vos idées fausses. Mais, comment dirais-je, c'est un peu les critiques qu'on peut faire au benchmarking aujourd'hui. Le benchmarking, vous savez, c'est des comparaisons internationales d'indicateurs. Qui vous fabrique des modèles de rationalité, qui vous dit si vous voulez une école efficace, soyez finlandais, si vous voulez une école épanouie, soyez danois, si vous voulez une école scientifiquement élevée, soyez coréen, si vous voulez. Bon, il y a un moment où les sociétés disent ça va, et elles ont raison, elles ont raison. Donc, je crois que les gens ont de bonnes raisons de résister aussi. Bon, mais c'est assez. C'est ça l'ordre. Il faudrait faire des travaux là-dessus, je suis incapable de faire, mais l'ordre de transmission des idées, des raisonnements est assez obscur.
Et simplement, voilà, peut-être finir sur une impression. Quel est
Ouais.
pour quelqu'un qui s'engage comme ça
Ouais.
dans le débat, dans
Ouais.
la recherche, le sentiment par rapport à j'allais dire, à cette stabilité relative de l'état du débat, de la société sur ces questions.
Ben, le sentiment est quand même un sentiment d'agacement, parce qu'on se dit, de découragement, on se dit, bon, ça suffit, voilà, comme ça, ça commence à devenir pénible. En même temps, je trouve que, en termes, je dirais, d'idées, pour parler comme ça, je trouve quand même que la France est en train de devenir un pays plus laïque. Voilà, je trouve qu'on devient un pays plus normal. Entre guillemets, plus pragmatique. Nous avons aujourd'hui des raisonnements sur l'école que nous n'aurions pas eu il y a quelque temps. Je pense par exemple au débat assez compliqué et très intéressant en termes de justice sur la carte scolaire. Parce que l'abrogation de la carte scolaire est une justice faite aux individus qui deviennent une justice sociale. C'est un très beau sujet d'agrègue quand même. Ouais. Très beau sujet d'agrègue. Bon, comment on a des... Voilà. On peut avoir des débats intéressants. Je ne suis pas certain que ces débats, on les aurait eus il y a encore quelques années, où le monde était idéologiquement bien plus congelé qu'il ne l'est aujourd'hui.
Donc on va terminer sur cette note d'espoir.
Voilà.
On vous remercie beaucoup, François Dubé, d'être venu nous rencontrer.
Merci.